Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, on est ensemble jusqu'à 19h. Nous sommes le 27 décembre, c'est-à-dire la fin de l'année 2017, et sur les réseaux sociaux, dans le milieu associatif, dans la rue, on ne manque pas de rappeler cette phrase qu'Emmanuel Macron a prononcée le 27 juillet dernier. D'ici la fin de l'année, je ne veux plus personne dans les rues. Une phrase qui faisait référence à la situation des migrants, mais que Droit au Logement a pris au mot pour tous les mal logés. L'association a lancé hier un compte à rebours avec une mobilisation par jour jusqu'au 31 décembre pour rappeler au président sa promesse. Et c'est dans ce même contexte de fin d'année que le collectif Vive l'APL a déposé à l'Élysée une pétition de 144 000 signatures contre la baisse de 5 euros des APL effectifs depuis le 1er octobre dernier. Une baisse inscrite dans la loi de finances 2018 et qui prévoit de la compenser par une diminution des loyers HLM du budget de certains bailleurs. Comment tendre vers cet objectif de zéro personne dans les rues si les populations les plus fragiles sont encore moins assurées de pouvoir garder un logement viable? Comment réformer une politique du logement sans pénaliser ses principaux acteurs? Comment équilibrer ses urgences sociales et ses impératifs budgétaires? Politique du logement, où se situe l'urgence? C'est notre sujet du jour. Et ils sont trois pour en parler ce soir. Christophe Robert, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes délégué général à la Fondation l'Abbé Pierre qui vient en aide aux mal logés. Et au sein de cette fondation, vous êtes en charge depuis une dizaine d'années de la coordination du rapport annuel du mal logement en France. On va sans doute en dire quelques mots au cours de cette émission. Avec vous pour discuter de cette discussion, Alain Cache, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes président de la Fédération des offices publics de l'habitat, oui. 265 offices publics de l'habitat.
253
maintenant. Près de 5 millions de personnes dans un parc de
2 500 000 logements et donc à peu près 5 millions de personnes, probablement un peu plus puisqu'il y a parfois de l'hébergement.
Et notre troisième invité, c'est François Jolivet. Bonsoir.
Bonsoir, madame.
Vous êtes député de l'Indre, La République En Marche, membre de la Commission des Finances à l'Assemblée Nationale et rapporteur spécial des crédits du logement et de l'hébergement. Première question pour vous, justement, monsieur Jolivet. Vous dites avoir regretté qu'une réforme d'ampleur du logement social, telle que celle qui vient d'être adoptée la semaine dernière, n'ait pas pu être élaborée en concertation avec les principaux acteurs du secteur. Alors, pourquoi cette concertation n'a pas eu lieu ?
Écoutez, je ne peux pas dire que la concertation n'a pas eu lieu, puisque les ministres de la cohésion du territoire ont rencontré les acteurs. Vous savez, le monde HLM, dont on a des représentants éminents autour de cette table, qui est le président de la Fédération des offices, n'a pas souhaité entrer dans ce dispositif de négociation avec le gouvernement. Une autre fédération, qui est celle des sociétés HLM, elle, est entrée dans cette négociation et est parvenue à un accord. Un autre acteur qui s'appelle Action Logement est parvenu également aussi à un accord, puisque...
Vous parlez de l'ESH.
ESH.
Qui est quand même pas la majorité des bailleurs sociaux.
C'est 50% des bailleurs, avec la Fédération des offices, 50%, on dirait que c'est 50-50, globalement. Je pense pas que le président Cachet me répondra sur ça.
Et puis, pas sur ça, non, mais sur autre chose. Oui.
Et par ailleurs, aujourd'hui, on a une réforme qui, certes, a été inspirée au démarrage par une réforme budgétaire, hein, mais vous savez, le monde HLM est un monde qui n'est pas facile à bouger, j'en viens. Et le constat qui a été fait aujourd'hui, c'était quoi ? C'est qu'aujourd'hui, nous avons autour de 18 milliards d'euros d'APL qui sont versés tous les ans, d'aide au logement à tous les locataires de France. Nous avons aux environs... De 18 milliards de dépenses fiscales, c'est-à-dire pour aider à construire des logements. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on a plus de mal logés, alors qu'on a un double mécanisme, les aides financières à la personne et les aides financières pour aider à construire, c'est-à-dire pour les murs, pour les bâtiments. Et en fait, c'est toute cette contradiction qui aujourd'hui est posée par le gouvernement dans sa réforme et qu'il a voulu s'en saisir pour essayer de transformer les choses. Parce qu'il faut savoir que des réformes du logement, il s'en est passé beaucoup. On parle actuellement, les vieux acteurs du monde HLM parlent de l'antépénultième encore réforme. Mais pour autant, on ne voit toujours pas de résultats. C'est-à-dire qu'on a toujours voulu augmenter les enveloppes des aides personnelles au logement, d'une part, alors que notre pays n'a pas tiré les conséquences de la monoparentalité dans les logements, alors que les loyers baissent partout
là,
en Europe.
Là, vous entrez un peu trop dans les détails, si tu peux me permettre. On va déjà se concentrer sur la concertation, puisque Alain Cacheux avait quelque chose à vous répondre sur cette question.
Oui, bah sur ce point, de manière plus précise que monsieur le député de La République En Marche, c'est concertation, il y a eu avec le Premier ministre, mais concertation, il n'y a pas eu avant l'annonce du budget, puisqu'il y a eu avec l'Union des échanges cordiaux d'ailleurs, mais à chaque fois que les représentants de l'Union, et en particulier Jean-Louis Dumont, le président, mais également le délégué général, posaient la question du devenir de l'APL, on leur répondait très simplement, on ne peut rien vous dire puisque ça n'est pas tranché au niveau de Bercy.
Il était d'ailleurs question d'une conférence du consensus qui avait été annoncée par Emmanuel Macron lors du congrès de l'Association des maires de France et qui n'a pas eu lieu avant...
Mais là, je vous parle de l'élaboration de l'automne. La déclaration du président de la République reprenant une idée du président du Sénat, M. Larcher, date de la fin du mois de novembre. Et la conférence du consensus a tenu sa réunion d'installation, a tenu d'ailleurs, sous la présidence de Madame la sénatrice Privat, une première réunion. Et bien entendu, les offices participeront, le président de la fédération, mais les offices participeront pleinement, comme je l'ai toujours dit, à la conférence du consensus. Je pourrais vous en dire un mot d'ailleurs, si vous le souhaitez, puisque nous avons fait des propositions très précises. Mais je reviens à la question que vous me posiez sur la concertation. Il y a eu, à l'initiative du Premier ministre, une véritable concertation. Et je dois dire que, pour avoir vécu... dans une vie antérieure, comme parlementaire et responsable politique, ce que je ne suis plus, évidemment, la vie d'un Premier ministre, et notamment celle de Pierre Mauroy, puisque je suis de Lille, je peux vous dire que j'ai rarement vu un Premier ministre consacrer autant de temps à la concertation. Et je dois dire que j'ai trouvé, en particulier au niveau de certains députés, dont d'ailleurs M. Jolivet, mais également au niveau de la grande majorité des sénateurs, une écoute très attentive, que ce soit de la part de Madame Estrosi Sassone, qui a fait un travail considérable, avec l'appui de Valérie Létard, avec l'appui, bien entendu, de Marie-Noëlle Lienemann, qui est une collègue de l'Union et qui aurait dû d'ailleurs être là ce soir, mais elle est souffrante et je lui souhaite prompt rétablissement, bien entendu, et bien d'autres sénateurs qui ont travaillé très activement, je pense en particulier au sénateur Philippe Dallier. Donc, si vous voulez, à partir de fin septembre, il y a eu une concertation, les choses ont avancé. Mais comme l'a dit dans sa conclusion, en réponse à une question posée au ministre Philippe Dallier, en réalité, en rejetant la proposition du Sénat, vous avez démontré qu'il n'y avait rien à négocier.
Et qu'il n'y avait, et que cette concertation, finalement, n'a pas apporté ses fruits.
Ben, elle a quand même apporté
ses fruits. Il y a eu un moratoire qui a été refusé, sur l'article 52 notamment,
oui,
qui a été refusé.
Oui, bien entendu. Non, ce n'est pas un succès que le résultat, mais ça nous a permis d'engranger beaucoup de choses. Et je pourrais vous en dire beaucoup là-dessus, mais j'ai déjà abusé de la parole.
Avant de vous entendre à nouveau, Alain Cacheux, je voudrais entendre Christophe Robert sur cette question de la concertation et surtout de l'urgence, puisque c'est un mot qui figure dans le titre de notre émission. À quelle urgence, selon vous, aujourd'hui répond la politique du logement du gouvernement ?
L'épisode dont on est en train de faire, auquel on fait référence actuellement, pose un problème à plusieurs égards. Monsieur le député disait 18 milliards d'euros sur les APL. C'est tout à fait juste. Pourquoi il y a 18 milliards d'euros sur les APL? Parce qu'il y a moins de ménages qui ont des ressources au-dessus des APL. C'est-à-dire qu'il y a plus de pauvres, il y a plus de modestes. Les APL, en fait, n'ont pas suivi l'évolution des loyers depuis 10 ans, on le sait, parce qu'elles ont été plafonnées pour limiter les dépenses. Donc quand on dit on va faire des économies sur les APL, en fait, on s'adresse à une aide sociale majeure, qui est la plus redistributive, en quelque sorte, avec les minima sociaux. Et si on dépense plus aujourd'hui sur les APL, c'est parce qu'il y a plus de personnes qui sont en situation de fragilité. Donc le choix de ce gouvernement...
Et qui concerne une majorité de personnes en dessous du seuil de pauvreté.
Ah oui, bien sûr, mais de toute façon, vous avez un plafond à partir duquel vous ne touchez plus les APL. Pour vous donner un exemple, à partir de 1000 euros net, quand vous êtes une personne seule, vous n'avez plus les APL. Donc ça veut dire que si on dépense plus sur les APL, c'est parce que plus de ménages sont descendus en dessous de cette frontière. Bon, donc la question qui est posée au gouvernement, avant de rentrer dans une technique de négociation avec les organismes HLM, c'est de dire, est-ce que vous voulez continuer à aider les personnes en situation de fragilité ? Absolument. Premier élément. Ensuite, sur la question de la négociation elle-même, très sincèrement, on a suivi ça de près. On a rencontré les députés, on a rencontré les bailleurs sociaux, on a rencontré le gouvernement à plusieurs reprises. Vraiment, ce qui a guidé cette réforme, c'est le souci de faire des économies. D'accord ? Donc, en gros, les économies qui sont aujourd'hui actées dans le projet de loi de finances, c'est moins 1,5 milliard par an sur le logement social. C'est-à-dire une baisse de 800 millions d'euros des APL qui doivent être compensés par les bailleurs sociaux. Ils vont baisser les loyers d'autant. Donc nous, on a une inquiétude, Fondation Abbé Pierre, c'est est-ce qu'ils vont pouvoir gérer de la même manière? Est-ce qu'ils vont pouvoir continuer à construire ou construire plus, comme on le demandait, avec des niveaux de loyers plus bas pour les ménages les plus modestes? Est-ce qu'ils vont pouvoir continuer à réhabiliter les logements sociaux? Donc, si vous voulez, avant même, et nous avons discuté avec Emmanuel Macron, le président de la République, de ces sujets-là, notamment en campagne, avant même que on ait pu formuler le fait qu'il y avait des besoins majeurs dans ce pays en matière de logement, que c'était vraiment un enjeu considérable avec l'emploi, avec la santé et l'éducation, finalement, on nous dit, on va faire moins, on va dépenser moins. Alors, si on nous montre qu'on va pouvoir faire mieux avec moins, nous, on sera tout à fait satisfaits. Et dans le rapport de la Fondation, on dira « c'était mieux ». Mais aujourd'hui, c'est vraiment un sujet d'inquiétude majeure pour nous.
Alors justement, sur l'exécution de cette politique du logement, François Jolivet, comment est-ce qu'on met en place cette baisse des loyers? Comment est-ce qu'on accompagne les bailleurs sociaux et les locataires les plus fragiles?
Avant de vous répondre, madame, je vais répondre au dernier interlocuteur. Sur la prise en compte de la fragilité, monsieur, je pense que il faut donner acte au gouvernement des 300 millions d'euros qui ont été inscrits sur l'hébergement d'urgence dans la loi de finances 2017, avec les deux décrets d'avance plus la loi de finances rectificative, et sur les 2 milliards d'euros qui sont inscrits dans la loi de finances 2018, ce qui ne s'est jamais vu dans notre pays. Et pour la première fois, les crédits de cette nature-là, en direction notamment des associations et qui accompagnent les personnes en grande difficulté, on ne les entend pas actuellement parce qu'elles semblent plutôt satisfaites aujourd'hui de leur sort qui leur est réservé. Sur la deuxième partie de votre propos, qui concerne l'absence de négociation, moi ce que je voudrais dire et rappeler tout de même, dans notre pays, nous avons les organismes HLM, ils ont un résultat, on va dire un chiffre d'affaires de 22 milliards d'euros. Mmh. Ils ont 2,2 milliards d'euros dispersés d'ailleurs, ça c'est, on est en macro, en vision macro, ils ont 2,2 milliards de résultats qu'on dirait taxables aujourd'hui, mais qu'ils ne l'est pas. Ça veut dire qu'ils ont une rentabilité de 10%. Alors voilà, ils ont 10% qu'ils réservent, puisque je suis un ancien dirigeant HLM, dans les investissements sur des temps longs, avec d'ailleurs beaucoup de trésorerie, ce que tout le monde a des difficultés à comprendre, parce que quand on décide de construire et qu'on livre dans 4 ans, il faut bien avoir économisé l'argent. Absolument. Pour pouvoir le faire. Pour autant, tous les secteurs qui ont assumé des missions de service public et les organismes HLM assument aujourd'hui un service économique d'intérêt général, comme l'a d'ailleurs qualifié l'Union européenne, ont été contributeurs au redressement des dépenses publiques de la nation. Je vous rappelle que le budget de l'État, c'est 384 milliards d'euros de dépenses, 304 milliards d'euros de recettes. Et sur l'absence de négociation, je peux donner acte au président de la Fédération des offices, peut-être que la négociation n'a pas été assez forte. C'est pas ce que j'ai entendu, moi, mais menée par le ministre de la cohésion territoriale et le secrétaire d'État. Je sais que le Premier ministre, et je fais partie de ceux qui ont permis au Premier ministre de reprendre la main sur ce dossier, je sais que les 1,5 milliard qu'on devait prendre en une année grâce à mon travail et à mon action, et d'ailleurs à Émilie de Montchalin qui était la WIP et au rapporteur général du budget de l'Assemblée nationale, nous avons réussi à négocier ça sur 3 ans. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, qu'économiser 800 millions d'euros sur 22 milliards d'euros de chiffre d'affaires, si on le fait à l'envers, c'est 2% de plus de recettes, puisque la réforme qui est demandée aux organismes HLM, c'est 6% en 6 ans.
Donc ce que je voudrais vous dire, c'est sur cette question du coup de l'accompagnement. Comment on accompagne un bailleur social dans la mise en place?
Le bailleur social aujourd'hui, son métier, c'est de loger des gens qui sont dans les plafonds de ressources. Mmh. La vraie difficulté dans notre pays, c'est que nous n'avons pas les logements qui sont situés au bon endroit. Aujourd'hui, nous avons un excédent de logements sur notre territoire, sauf que nous avons des territoires en déprise où nous avons beaucoup de logements vacants qu'on n'oserait pas démolir s'ils étaient dans la région parisienne. Et puis, par ailleurs, on a des logements qui sont insuffisamment présents à l'endroit où se trouvent concentrées les populations. Et en fait, cette difficulté-là, et on vient de créer les métropoles l'année dernière, l'ancienne majorité a créé les métropoles, et sans doute en créant les métropoles, à créer les futurs territoires de la crise du logement de demain, puisque moi qui suis élu d'un département rural, chez nous, on casse les logements, on vide les écoles, on ferme les équipements publics, et dans d'autres territoires, puisque j'avais des fonctions nationales dans mon métier, on ne peut plus construire les écoles, et on ne peut plus construire les équipements
restons
publics.
Restons sur le logement, si vous le voulez.
Mais c'est
bien.
Très important, c'est de l'aménagement du territoire.
Mais on retrouve ce mot chez vous et chez d'autres députés La République En Marche, de péréquation financière, c'est-à-dire que les bailleurs sociaux sociaux qui auraient plus, ceux qui ont peu de locataires aux APL pourraient donner des financements à ceux qui en ont
Il y a deux choses. Vous savez, la réforme du logement, elle a démarré, je dirais...
Comment ça se met en place concrètement, en tenant compte des disparités régionales
Je travaillais dans un grand groupe HLM qui avait plusieurs sociétés HLM, qui étaient détenues par une qui était détenue par une holding, et aujourd'hui la péréquation se faisait à travers ce qu'on appelle les services communs et les fonctions support. Il y a aujourd'hui des offices qui avaient déjà réfléchi à ce genre de choses, qui eux n'ont pas de moyens et d'outils juridiques pour faire ce genre de choses, qui ont créé des GIP et des JE dont on a connu les difficultés de mise en œuvre, groupements d'intérêt public et groupements d'intérêt économique, parce qu'en fait les offices, ils ont du mal à se rassembler dans des structures parce que ils sont des établissements publics et les établissements publics ne peuvent pas être propriétaires d'établissements publics. Mais ce que je pense, c'est que vraisemblablement, les organismes HLM seront amenés à se rassembler. Je pense que la loi arrivera à trouver un véhicule juridique, et il y en a déjà qui existent pour que les offices puissent se rassembler. Le président Cacheux, qui est un président dynamique, a déjà expliqué, et l'a expliqué depuis longtemps, puisque j'ai fait partie de l'un de sa fédération, en disant qu'il fallait que les offices se réforment. Et aujourd'hui, on est entré sur un chemin de la réforme dans les offices, alors que parmi les ESH, c'était déjà commencé depuis très longtemps.
Alain Cacheux, sur cette question, est-ce qu'il faut regrouper les offices HLM ?
Sur cette question, il faut poursuivre et probablement amplifier un travail qui n'a pas attendu ce document, le projet de loi, pour être amorcé.
Ce travail, c'est celui de la péréquation financière ?
Oui, mais attendez, je vais y venir. Mais simplement pour dire à Monsieur Jolivet qu'il a sans doute beaucoup contribué au résultat auquel on est parvenu, qui est insatisfaisant au possible, je le dis, même s'il y a eu des avancées grâce à la négociation menée autour du Premier ministre, Édouard Philippe. Mais je dois dire que c'est insatisfaisant. Pourquoi ? Je voudrais reprendre ce que disait Christophe Robert. En réalité, s'il y a eu progression de l'APL, et je ne parle que de l'APL puisque c'est la seule dépense budgétaire, les autres sont des non-recettes fiscales, et j'en dirai un mot si vous me le laissez, mais comme je sais que M. Jolivet a été relativement long, vous allez me laisser un peu de temps de parole.
Allez-y.
Donc, c'est la seule recette fiscale. Et donc, c'est d'abord la paupérisation, mais évidemment. Je vais vous donner un seul chiffre. L'Union sociale pour l'habitat, qui regroupe l'ensemble des organismes d'HLM. Bien entendu, les offices, mais également les entreprises sociales de l'habitat, les coopératives. Les deux grandes familles locatives sont quand même la Fédération des Offices et la Fédération des ESH, présidée par Valérie Fournier. L'année dernière, en 2016, on aura rapidement le bilan 2017, sur 450 000 attributions, 220 000, vous m'entendez, 220 000, près de 50% ont été faites, tous organismes confondus, à des personnes qui étaient candidates à un logement, dont le revenu était égal ou inférieur au seuil de pauvreté. Et je confirme ce que disait Christophe Robert il y a quelques instants, à savoir que quand vous êtes personne seule avec 1000 euros de ressources, vous n'avez pas d'APL. Vous n'avez pas d'APL. Parce que sur l'APL, par rapport à ce qu'a dit le député de La République En Marche, mais bon, naturellement, il défend le gouvernement, je le comprends, mais quand même... Comme je sais qu'il a été directeur général d'un office qu'il a redressé, je sais qu'il connaît la question, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. En réalité, parlons des choses, 18 milliards d'APL. Savez-vous que la majorité de l'APL est versée aux locataires du parc privé ? Or, ils ne sont pas concernés. Ils ne sont pas concernés par cette mesure. C'est d'ailleurs un des éléments essentiels du recours que nous avons déposé auprès du Conseil constitutionnel, puisque les députés en ont déposé un, et par une procédure que moi-même, personnellement, je ne connaissais pas, mais nous avons à la Fédération des Offices des Personnes Ressources, comme on dit. Je vais quand même ajouter un point ou deux.
Avant d'écouter Christophe Robert.
Donc, nous sommes partie prenante, nous aurons la réponse dans 48 heures, puisqu'il faut évidemment que la loi de finances soit votée avant le 1er janvier. Premier élément. Deuxième élément de ce qui a été dit. C'était une réforme qui, au départ, pénalisait les organismes qui avaient la politique d'attribution la plus généreuse. Puisque plus vous aviez de locataires APLisés et plus les pertes de ressources étaient importantes. Et d'ailleurs, le Premier ministre a bien voulu en convenir et c'est bien la raison pour laquelle les choses ont été corrigées au-delà du travail extraordinaire.
C'est-à-dire que cette baisse a été...
Voilà, parce qu'il a été maire du Havre et que comme maire du Havre, il a suivi de près le travail de son office qui longtemps a été présidé par quelqu'un dont on n'oublie pas le nom. Hein, puisqu'il s'appelait Jean Moulin. Il est toujours présent, d'ailleurs, Jean Moulin. C'est un nom qu'on retient, lieu de résistance. Je termine, madame, sur le dernier point. Vous étiez d'autant plus pénalisé que vous aviez une politique de loyer modérée. Parce que 50 euros, on avait fait le calcul sur 50, sur un loyer moyen type 3 de 350, ça pèse plus lourd que 50 euros sur un loyer moyen de 500.
Christophe Robert, déjà vous vouliez réagir à ce que disait Monsieur Cacheux. Et est-ce que vous pensez que dans cette discussion autour de cette politique du logement, on s'intéresse, dans cette politique déjà, sans parler de cette discussion, on s'intéresse plus aux instruments qu'aux objectifs ?
À vrai dire, il faut se méfier de ça. C'est-à-dire que dire il faut du regroupement, bon, pour l'efficacité. Nous, on est pour l'efficacité à la Fondation Abbé Pierre, évidemment. Et à bon usage des dépenses publiques. Du coup, je dirais que l'analyse qu'on peut faire à travers des organismes de contrôle, par exemple du logement social, montre que vous pouvez être un petit organisme, avoir peu de logements et être très efficace. Donc je pense que la logique du gros beau, du big is beautiful, n'est pas toujours vérifiée. Donc je trouve qu'il faut être un petit peu prudent à ce sujet-là. Mais je voudrais revenir sur cette question de Monsieur Jolivet. Est-ce qu'on oublie une chose ? Peut-être qu'il était nécessaire, peut-être qu'il est nécessaire d'améliorer l'efficacité d'un certain nombre de bailleurs sociaux. Peut-être qu'il y a des péréquations possibles entre des organismes qui auraient un peu plus de ressources que d'autres. Et d'ailleurs, je le constate, les organismes HLM, déjà depuis plusieurs années, ont mis en place un fonds de péréquation.
Absolument.
Et qu'il faut peut-être augmenter dans cet esprit-là. Nous sommes aussi favorables à cette logique d'intervention. Ceci dit, si on dégage 800 millions, ou avec la TVA, 1,5 milliard, ou dans 3 ans, 1,5 milliard, comme le disait le député Jolivet. Nous, Fondation Abbé Pierre, vu les 4 millions de mal logés, vu les 12 millions de personnes qui sont en situation de grande difficulté par rapport au logement sans être fragilisées, ça représente tellement de personnes avec un impact sur la santé, sur l'éducation des enfants, sur l'emploi, sur le vivre ensemble par rapport à l'aménagement du territoire. Eh bien, nous disons, ok, peut-être qu'il y avait des économies à faire, admettons, Je ne suis pas tout à fait aussi certain, mais l'avenir nous le dira. Mais utilisons cet argent-là pour faire baisser les prix. Par exemple, en rachetant des logements pour les faire mettre à un niveau de loyer plus bas, pour équilibrer les opérations. Or là, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Donc c'est moins les instruments qu'on met en amont que la baisse budgétaire comme principe édicté par Bercy.
Comme
on l'a bien
l'objectif.
Vu. Et donc, du coup, même si on fait 1,5 milliard, ces 1,5 milliard ne sont pas réinjectés dans la réponse supplémentaire au problème de logement de nos concitoyens. Et ça nous pose un problème majeur.
J'habite dans une chambre que je paye 700 euros par mois. Je n'ai même pas une cuisine. Vous trouvez que c'est admissible, ça ?
Vous vivez à combien dans cet appartement ?
3. Moi et mes deux filles. Même ma fille, quand elle faisait ses devoirs, je vous jure, elle se fermait dans la salle de bain pour faire ses devoirs tranquille. Une pièce pour 3 personnes, c'est inadmissible. Et ça fait 18 ans que j'ai fait la demande à la mairie. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, avec tous les courriers que j'ai envoyés, je n'ai reçu aucune réponse. Aucune réponse, aucune proposition.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?
Pour l'instant, je suis au chômage. J'étais gouvernante dans un hôtel 4 étoiles. Je suis auxiliaire de vie scolaire. Je travaille avec les enfants handicapés. J'ai beaucoup donné, mais moi, je n'ai rien reçu.
Donc, vous touchez les APL ?
Je ne touche même pas 256 euros, monsieur. Ils ont réduit l'APL de 5 euros. Pour moi, 5 euros, ça compte beaucoup. Je peux acheter du lait, je peux acheter du pain, je peux acheter du poisson pour manger avec. 5 euros, c'est énorme pour moi.
Politique du logement, où se situe l'urgence ? On se pose la question avec Alain Cacheux, président de la Fédération nationale des offices publics de l'habitat, le député La République en marche, François Jolivet et Christophe Robert, délégué général de la Fondation L'Abbé Pierre. On vient d'entendre un extrait d'un reportage de Rémi Douate, Delphine Lemaire, intitulé « Je veux juste un toit », diffusion dans l'émission Les Pieds sur Terre la semaine dernière, lors de l'une de ces manifestations organisées par l'association Droit au logement. Cette femme donc nous dit que ce que ça signifie concrètement pour elle, cette baisse des APL. Alors, pourquoi cette réforme se concentre, on a commencé à se poser la question avant d'entendre cette femme, se concentre sur les bailleurs HLM. Pourquoi est-ce que ça, le privé ne porte pas plus cette réforme du logement, François Jolivet ?
Parce qu'à mon avis, c'est la deuxième étape. Aujourd'hui, l'État pense, après des analyses d'ailleurs, y compris des corps de contrôle, et notamment l'ANCOLS, que le monde HLM était arrivé à maturité et devait être réformé. C'était ce choix qui a été fait de passer par les ressources des organismes HLM. Mais comme vous disiez tout à l'heure, madame, est-ce qu'on ne confond pas les outils et les objectifs ? En fait, le calendrier de la loi de finances fait qu'il est avant le projet de loi logement, qui fait l'objet d'ailleurs de la conférence de consensus au Sénat. Donc, est-ce qu'il fallait attendre une année pour entamer cette réforme-là ? Je ne le pense pas. L'objectif, c'est de procurer un logement à cette dame qui attend depuis 15 ans un logement et qui vit dans un type 3, dans un type 2 avec 3 personnes que nous venons d'entendre. Et l'objectif dont s'est saisi le gouvernement et a augmenté de 500 millions d'euros le budget, c'est de favoriser justement cet hébergement d'abord pour les gens, pour les mises à l'abri, ce qui est quand même déterminant en plus dans la saison à laquelle on est, même si aussi le principe du libre-arbitre et de la liberté individuelle des gens.
Mais l'hébergement, c'est une chose, et le logement
après,
de ces
après,
personnes
après,
qui sortent
après,
de l'hébergement,
après, l'hébergement c'est le logement, et c'est tout le dispositif du logement d'abord, de faire passer plutôt des gens directement dans un logement, plutôt que de les mettre dans un centre d'hébergement, où là encore, pour des raisons budgétaires, ça devient compliqué de tout gérer et de faire face. Et d'ailleurs, on trouve même plus de structures associatives, souvent, pour pouvoir porter de telles ambitions. Et heureusement qu'il en existe, qui se donne beaucoup. On en a un des représentants ici, et puis je pense notamment à une association parisienne qui s'appelle Solidarité Accueil, ou je ne sais plus quelque chose, Aurore par exemple, qui font un travail merveilleux. Mais aujourd'hui, c'est d'essayer de procurer un cadre de vie à des gens et pas un lieu où ils dorment, puisque l'hébergement, c'est un lieu où on dort.
Mais cette femme parle de délais quand même assez importants pour l'obtention d'un logement. Est-ce que c'est pas un point qu'il faudrait moderniser,
Vous savez, le droit au logement, si vous êtes dans l'Indre et que vous habitez dans l'Indre, il n'y a aucun problème. Vous avez un logement le lendemain de votre dépôt de demande de logement. Si vous souhaitez venir habiter à Paris ou même à Paris, si vous souhaitez qu'un seul arrondissement, c'est sûr qu'en fonction du nombre, du lieu de votre choix de vie, eh bien, votre délai d'attente sera extrêmement important. Et en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que vous parliez tout à l'heure du secteur marchand. Le secteur marchand, en fait, dans l'Indre, c'est complètement régulé. Les loyers du secteur marchand sont au niveau des loyers HLM. Quand il y a de la tension sur un marché, les loyers marchands remontent. Et l'objectif, c'est de faire le choc de l'offre, mais le choc de l'offre avec les organismes HLM, sans doute, avec la réforme qu'ils devront porter, mais aussi essayer de favoriser le secteur marchand à construire. Mais il faut savoir que c'est toujours qui capte, la question c'est qui capte la valeur aujourd'hui.
En matière de régulation, Christophe Robert, vous dites que il faut appliquer en fait ce qui existe déjà, c'est-à-dire l'encadrement des loyers par la loi Allure de 2014, ce qui dépend de la bonne volonté en fait des communes, ce qui dépend de la bonne volonté locale.
En fait, quel est le problème ? Dans les grandes villes, notamment, on a un manque vraiment très important de logements à loyer accessible économiquement pour les ressources des ménages. C'est-à-dire que le logement est trop cher. Donc, le logement social est pour nous un des outils, évidemment, majeurs d'exercice de la solidarité dans le domaine du logement. Si on veut arrêter, année après année, de voir augmenter le budget de l'hébergement, comme c'est le cas cette année, vous le rappelez, monsieur le député, mais c'est le cas depuis 10 ans. Chaque année, on rajoute 200 millions. 300, 400, ça dépend. Et du coup, pourquoi ? Parce que, de fait, ce secteur de l'hébergement doit compenser notre incapacité à produire collectivement du logement à loyer accessible en nombre suffisant, ou à faire, donc, par le biais du logement social, ou à réguler les marchés du privé. Nous, c'est pas idéologique, c'est pas dogmatique, mais nous sommes favorables à l'encadrement des loyers. La loi Allure avait prévu que cet encadrement des loyers soit appliqué dans les 38 agglomérations les plus importantes, les plus tendues, pour pouvoir faire baisser un petit peu les prix les plus chers. Ce n'était pas une plus grande ambition que ça. Paris l'a mis en exercice pendant un an. On a vu un certain nombre de loyers baisser. Absolument. Lille a choisi de le faire également. Oui. Et puis, pour des raisons purement administratives, au tribunal administratif, cette application a été remise en cause. Il faut impérativement que le gouvernement reprenne la main sur ce chantier de l'encadrement. D'ailleurs, je note que le ministre de la cohésion des territoires a refusé cette notion en disant « nous, on n'est pas d'accord, on veut aller au bout de cet encadrement des loyers, c'est plutôt satisfaisant ». Simplement, Vous parliez du logement d'abord tout à l'heure. Nous sommes totalement favorables à la logique du logement d'abord qui est aujourd'hui prise
en compte. Le logement d'abord qui consiste donc à comme son nom l'indique, à d'abord héberger les personnes qui sont sans logement.
Le principe est simple, c'est de dire plutôt que d'utiliser des hôtels coûteux et insatisfaisants pour les gens ou de l'hébergement d'urgence pour quelques nuits ou quelques mois. Dire que le logement, plutôt qu'une récompense, peut être le levier de la réinsertion des personnes. Et parce que tout le monde a besoin de stabilité. On ne peut pas avoir une épée de Damoclès sans arrêt sur la tête. Et donc, c'est vraiment des expériences nord-américaines, européennes, parfois dans certaines villes en France, qui nous montrent que c'est la bonne formule. Pour ça, il faut vraiment produire du logement pas cher. Parce qu'il faut que les personnes puissent entrer directement dans le logement par rapport à leurs ressources. D'autres sortent de l'hébergement vers des situations de logement. Donc il faut absolument que le gouvernement mette la priorité absolue sur la production de logements pas chers, c'est-à-dire dans le parc social et dans le parc privé. Donc il faut impérativement qu'il y ait une dynamique beaucoup plus forte que celle que nous connaissons aujourd'hui, même si c'est bien que le gouvernement ait acheté ce logement d'abord.
Sur cette question.
Oui, je partage complètement le point de vue de Christophe Robert, et comme on a eu souvent l'occasion d'en parler ensemble, ça n'étonnera personne. J'aurais simplement vous dire, par rapport à notre échange, deux ou trois choses. D'abord, je ne sais pas ce que sera le devenir de l'article 52, le Conseil constitutionnel doit se prononcer. Mais d'ores et déjà, avant même d'avoir été mis en œuvre, il a eu des effets très négatifs. Tout simplement parce que les organismes ont ralenti, quand ils le pouvaient, les crédits d'entretien et de grosses réparations. Je connais des organismes, et pas uniquement des offices, qui ont stoppé les ventes en l'état futur d'achèvement. Si quelqu'un comme Alain Dinin, qui est quand même quelque part la mémoire de la promotion, a claqué la porte de la FPI, c'est bien tout simplement parce que la FPI était beaucoup trop corporatiste et ne défendait pas les intérêts du logement social, c'est bien que quelque part, il avait conscience que désormais, les promoteurs privés et les organismes HLM ont partie liée, puisqu'une bonne partie de la production se déroule sous forme de vente en l'état futur d'achèvement. Ça correspond au souhait des maires qui souhaitent qu'il y ait des opérations mixtes et désormais les promoteurs s'y font. Donc vous voyez que à ce niveau-là, pour ce qui concerne la Fédération des offices, nous nous sommes d'autant plus battus que selon une terminologie médicale que j'ai utilisée dès le départ, notre pronostic vital était engagé.
Et Alain Cachot, vous disiez au début de cette émission que vous aviez, vous, réfléchi à d'autres moyens de réformer le logement.
Voilà, mais pour être réformé, encore faut-il ne pas être tué, tout simplement.
Et quels sont ces autres moyens, par exemple ?
Notre pronostic vital était engagé si les mesures initiales avaient été mises en œuvre. 122 offices sur 253 auraient été, dès la fin de 2018, mis dans le rouge. Hein. Donc, très concrètement, et sur 3 ans, comme c'était prévu, hein, c'était non seulement des offices, mais également des ESH qui ressemblent étrangement à des offices qui sont indépendants, qui n'ont pas la manne d'Action Logement, parfois formale utilisée, il faut le dire quand même très simplement, et évidemment pas la SNI qui, elle, peut s'appuyer sur la Caisse des dépôts, excusez du peu, évidemment, c'est plus facile. Donc, la réalité du monde HLM, c'est qu'il est très divers et qu'ils font des politiques très différentes. Et Christophe Robert avait raison de dire tout à l'heure qu'il y a des petits organismes très efficaces. Nous avons fait beaucoup d'études et qui ne dégagent aucune taille optimale. Ce qui existe par contre, c'est que quand il y a plusieurs offices, j'évoque la famille que je connais le mieux, dans la même agglomération, alors que moi je souhaite que l'on renforce le pouvoir des agglomérations chargées de la mise en œuvre de la politique locale de l'habitat. Ben moi je le dis très simplement, ces organismes doivent se regrouper, c'est nécessaire. Je le dis d'autant plus volontiers que j'ai procédé à cet effort.
C'est par là que passe le futur de la politique du
logement ? Ça dépend. Vous avez des départements ruraux où les offices sont de taille relativement limitée et qui jouent un rôle indispensable. Essayons d'adapter la réforme à la diversité de notre pays et non pas à l'uniformité telle qu'on le fait trop souvent.
À ce propos, Françoise Jolivet, vous dites, ce sont des propos qu'on peut lire dans un article du Monde paru le 2 novembre dernier, que le parc HLM et les APL ne s'étaient pas réformés depuis 1977 et qu'ils devaient plus s'autoporter, trouvant d'autres ressources que les aides de l'État. Mais alors, comment y arriver dans ce contexte-là ?
Si vous voulez, alors là on est très dans la technique et très dans les outils, je ne sais pas si ça intéresse tout le monde, mais je vais répondre à votre question. Qu'est-ce que... Le monde HLM, c'est vrai, la dernière grande réforme, c'est la création de l'APL, 77.
Absolument.
Voilà. Absolument. Et c'est donc l'aide à la personne actée, avec à l'époque l'aide à la pierre en plus. Donc l'aide à la construction. Absolument. Et l'aide à la personne.
Donc
depuis ce temps-là, on avait eu des réformes, mais pas des réformes sur les mécanismes d'aide à la personne. Donc là, au mois d'octobre, on a moins 5 euros parce qu'il fallait ajouter 300 millions d'euros, donc 120 millions d'euros. Et donc ça n'a pas été fait.
Plus un gel. Une baisse de l'accession.
Voilà, plus un gel. Mais ça, on pourra en parler. Plus un gel. Et puis là, donc, une réforme qui est complètement neutre pour les locataires et qui ne concerne que les organismes HLM. Quand on dit s'autoporter, c'est qu'aujourd'hui, le parc HLM, aujourd'hui est un parc important qui a une valeur nette comptable, comme on dit au bilan, à la valeur vénale égale à zéro. C'est-à-dire que l'organisme HLM, ne peut vendre ses logements qu'à ses locataires ou à d'autres organismes HLM. Et on peut penser que, et là on est dans un territoire très tendu, Paris, puisque j'ai eu l'occasion d'y construire, on sait qu'il faut 200 000 euros de fonds gratuits pour construire à Paris. Et on sait que lorsqu'on vend un appartement de 100 mètres carrés à Paris, on va peut-être le vendre à 1 million d'euros. Donc en en vendant un, on en fait 5. Ce que je veux dire dans autoporter, ça veut donc dire être capable de faire tourner le parc, être capable de permettre à des gens d'accéder à la propriété, parce que je vous rappelle qu'une certaine époque, pourquoi est-ce que les organismes HLM n'ont jamais vendu? C'est que les dirigeants étaient payés au nombre de logements, comme d'ailleurs ils ne démolissaient pas.
Mais l'urgence, ça devient donc la dynamisation du parc HLM. L'urgence,
c'est la dynamisation du parc HLM.
Des
la dynamisation. Non, parce que les organismes HLM, vous savez, le président Cachieux, on est dans des jeux d'acteurs aussi dans ce débat, et sur les fonds propres. Aujourd'hui, même si les organismes HLM demain ont moins de résultats, la nature des aides que vont leur apporter la Caisse des dépôts et consignations, que va leur apporter la Caisse des dépôts et consignations, n'empêchera pas de construire parce que ce sont des fonds propres. Donc les fonds propres qui ne dégageront plus sur leur compte d'exploitation, ils les dégageront par la Caisse des dépôts. Donc le fait de dire qu'ils ont renoncé à construire des logements HLM parce qu'ils avaient des soucis...
On verra le bilan fin 2017. Je suis prêt à prendre le pari.
Pour anticiper l'avenir.
Moi aujourd'hui, j'ai des organismes HLM autour de moi qui n'ont pas cessé de signer les VFA et heureusement en région Île-de-France.
Oui.
Christophe Robert.
Je pense qu'il faut être très prudent, si vous permettez, monsieur le député.
Moins de 100 000.
On verra ce que ça donne en termes de production, de rénovation. Moi, je vois aussi beaucoup de bailleurs sociaux qui sont seuls dans les quartiers populaires parce que les services publics ont déserté, parce qu'on n'a pas assez de moyens pour apporter des réponses. Non, mais sincèrement, souvent, ils sont seuls. Donc moi, ce que je vois, c'est ça. Nous, ce qu'on voit à la Fondation Abbé Pierre, c'est ça. Sur la question du modèle économique, ce modèle économique, il est formidable. Ça fait 100 ans qu'il fonctionne. C'est pas parce que ça fait 100 ans que ça fonctionne que ça n'est pas bien. Non, pardon, je ne m'adresse pas à vous, monsieur le député, directement. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut faire attention. Ce modèle, nous, on est plutôt volontaire pour l'exporter en Europe.
Absolument.
Et on essaye de faire que nos voisins européens s'en saisissent. Ils en sont jaloux pour beaucoup d'entre eux.
Des aides au logement. Laissez parler Christophe Robert.
Le système du financement du logement social qui fait qu'il y a des aides publiques, il y a des avantages de taux, il y a la capacité à produire, mais après, c'est contraint. C'est-à-dire que ce patrimoine, c'est le patrimoine de la nation, c'est pas le patrimoine d'un organisme HLM particulier. Donc on ne le vend pas, au sens on ne le valorise pas financièrement au titre de la valeur de l'immobilier. Vendre une partie des logements sociaux, parfois ça peut se justifier. Aujourd'hui on est à 7, 8, 10 000. Si on passe à 15, 20 000, ça ne devrait pas être un gros problème si on ne met pas en difficulté les ménages. Mais par contre, construire le modèle économique de la construction du logement social autour de la vente, ça veut dire se désengager au titre de la solidarité nationale. Et nous souhaitons sincèrement que nous trouvions, que nous maintenions un dispositif qui repose sur la solidarité nationale. Pourquoi ? Parce que du coup, cette solidarité nationale peut dire « Bon, bah écoutez, c'est pas plus que tel niveau de loyer chaque année ». Mois de juillet.
Vous parlez de logements très sociaux, ça va dans ce sens-là ?
Exactement. C'est pas plus de... En dessous des plafonds de ressources, pour telle ou telle personne, pour accéder au logement social.
Pas les neufs,
le problème, c'est qu'effectivement, on a plusieurs catégories de logements sociaux. Des moins chers, des moins coûteux et des plus coûteux. C'est pour ça que nous, les 1,5 milliard dont on parlait tout à l'heure, au-delà du risque de fragilisation du secteur dans son ensemble, qui nous inquiète beaucoup à la Fondation, eh bien, nous pensons qu'il aurait pu être mis à contribution pour faire baisser les prix des logements sociaux dans les grandes
villes. Pourquoi ça n'a pas été fait avant?
Faisons-le maintenant.
Alain Cacheux.
Oui, très simplement, on
vous
a
allez avoir
parlé
de
ce qu'on vient de vivre. Moi, je voudrais dire un mot de ce qui se prépare à travers la conférence du consensus, où j'étais amené à faire des propositions, mais après en avoir beaucoup discuté avec mes collègues de la Fédération des Offices, je ne suis que leur porte-parole. Et j'ai fait, lors de la première réunion qui était présidée par la sénatrice Privat, trois propositions. Premier élément, renforcer le pouvoir de l'agglomération en lien étroit avec les maires. On a entendu votre reportage tout à l'heure, et la dame disait quoi ?
Qu'elle demandait un logement à la mairie.
Parce que dans l'idée des gens, les HLM, c'est la mairie, que ce soit un pouvoir d'agglo ou un maire, ça veut dire très concrètement que l'élection au suffrage universel des agglos, comme on l'entend de temps en temps, est une très mauvaise idée. Nous avons la chance en France d'avoir un réseau de maires qui ne sont pas des... Ce n'est pas du bénévolat, c'est du sacerdoce,
et
croyez-moi.
Qu'il faut plus
alors,
consulter.
Première proposition.
Alors, il va falloir aller très vite.
Deuxième
on
proposition,
à la fin de
nous souhaitons que la collecte fraîche du 1% logement aille aux régions, très clairement, et non
et
pas
trois,
Action Logement.
Troisième
proposition, nous renforçons le rôle des élus locaux dans les conseils d'administration des offices. Nous souhaitons qu'ils soient majoritaires.
Voilà. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec nous pour réfléchir à cette question politique du logement. Où se situe l'urgence? Christophe Robert, délégué général de la Fondation L'Abbé Pierre, Alain Cacheux, président des offices publics de l'Habitat, et François Jolivet, député de l'Indre, La République En Marche. On peut réécouter cette émission et la podcaster sur notre site franceculture.fr à la page du Grain à Moudre. Un grand merci à l'équipe qui a préparé cette émission avec moi, Antoine Tricot, Marine Beccarelli, Philippine Lebray, Antoine Dulster, Eva Pellerin, Alexandra Condilonguet à la réalisation, accompagnée à la prise de son d'Inès de Bruyne. On se retrouve demain pour une émission en partenariat avec le journal La Croix et nous parlerons de la fermeture prochaine du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. À qui a-t-il servi? Mais tout de suite, il est 19h sur France Culture et avant de retrouver Arnaud Laporte et ses chroniqueurs pour la dispute, nous retrouvons Lise Verbeek.